tête sur les gros dossiers de la semaine. Voici Jacinthe-Ève Harel.
Jacinthe-Ève Harel, je suis tellement content que tu sois là parce que t'es une femme. T'es bonne pour une femme.
Ah oui.
Hey, on trouve que...
Hey, mon François Legault, toi là,
exceptionnel, là. Une femme.
T'es paternaliste.
Hey, tabarouette, on est-tu tanné hein, d'être différencié par nos sexes quand on accède à des postes du genre?
C'est débile.
C'est un peu fou. C'est dans le monde dans lequel on est. Puis, François Legault a quand même mal paru là, dans les derniers jours concernant l'accueil de Christine Fréchette. Mais il y en a plusieurs qui sont tombés dans le panneau.
Oui, bien, c'est étrange que les gens aient critiqué François Legault quand on l'entend quand même beaucoup qu'on voulait une femme au pouvoir. Si Christine est élue, au moins, ça sera une femme. C'est une avancée pour les femmes. Alors... Et François Legault s'inscrit dans cette même mouvance oui. où on reconnaît que c'est une femme.
Sauf que c'est un homme. Il n'a pas le droit de dire ça.
Ah, lui, il n'a pas le droit.
Non, il n'est pas féministe.
C'est ça.
Ah.
De toute façon, peu importe l'angle dans lequel c'est dit cette histoire-là, là, on dirait qu'on est en 1940.
Oui.
Puis qu'on est encore à décompter. Il y a combien de filles à l'université. Ah, il y a combien de femmes qui sont devenues médecins. Il y a combien de femmes juges. Allô? C'est plein de femmes juges. C'est plein de femmes dans les plus belles facultés. À l'université, quand je dis les plus belles, les plus prestigieuses ou les plus contingentées.
Médecine, à la base, c'est quasiment 80%.
En droit.
Ben oui.
En droit. Et la rectrice de l'Université Laval, c'est une femme. Les femmes occupent les postes de pouvoir depuis quand même quelques décennies. Oui,
qu'est-ce qu'il nous reste, nous autres, les hommes, la construction?
Ben, sûrement. Non, mais j'ai une question pour toi. Pourquoi les femmes mettent autant d'importance encore sur le fait que c'est une femme qui devient première ministre, alors que pour moi, t'sais, c'est juste naturel. T'sais, je ne mettrais pas plus d'emphase parce que pour moi, ben, c'est normal qu'une femme soit première ministre, comme c'est normal qu'une femme soit avocate puis médecin. T'sais. J'ai comme switché ailleurs. Je suis un gars qui prend très soin des femmes, mais dans ma tête, j'ai comme switché ailleurs parce que l'égalité, elle existe.
Ben, ta façon de raisonner, pour moi, révèle que on est rendu à parité. On a atteint cette égalité homme-femme. Ouais. Égalité dans l'accès des chances, égalité dans le traitement, égalité juridique. Et bien sûr qu'on n'est pas égal sur certains plans, physiques notamment.
Ben non.
Mais l'égalité de traitement, l'égalité d'accès, elle est atteinte. Et moi, c'est... Je trouve que ta manière de raisonner démontre qu'on est rendu ailleurs. On ne se différencie plus par le sexe, on se différencie par nos compétences, par nos forces, par nos faiblesses, et on en a toutes. Et ça n'a rien à voir avec notre sexe, tout comme ça n'a rien à voir avec la couleur de nos yeux, la couleur de notre peau non plus. Alors, se définir à travers son sexe, je trouve ça quand même très rétrograde. Donc, même les femmes qui disent « Ah, c'est le fun, enfin, une femme », non, c'est le fun, enfin. Dis-moi, c'est le fun, enfin, quelqu'un de compétent, quelqu'un qui a tel enjeu à cœur, ouais. quelqu'un qui a... Mais franchement, la compétence ou l'exceptionnalité du service public ne se définit pas parce que tu es une femme. Il y a des femmes très médiocres en politique et il y a des femmes très médiocres dans d'autres secteurs aussi, tout comme il y a des hommes.
Ça peut-tu créer des modèles? Donc, une jeune fille qui dit, ben moi, la politique, je vois que la première dame du Québec, c'est une personne qui a bien du sens, c'est une femme de qualité, elle est brillante, elle amène le Québec vers un bel avenir, patate patata. Ça peut-tu inspirer des jeunes femmes?
Peut-être, mais je connais pas de jeunes femmes au Québec de la génération, des générations là, de jusqu'à au moins l'âge de 50 ans en descendant. Là, je connais pas de femmes qui se disent « Ouais, moi j'aurais voulu faire ça dans la vie, mais je pouvais pas parce que je suis une femme. » 50 ans et moins, là, les générations à partir de 50 ans en descendant, je connais pas ça. Moi-même, quand j'étais plus jeune ou quand j'ai étudié en sciences politiques et on me disait « Ah, tu veux faire de la politique? » Puis je disais « Ah, si un jour je fais de la politique, ça sera pour être première ministre. » Jamais je me suis dit « Ouais, mais ça arrivera pas parce que je suis une femme. »
Il y en a qui le disent.
Pas parce que je suis une femme.
Mais il y en a quand même qui le disent. T'sais, moi, je regarde autour de moi, il y a des femmes qui peuvent le dire. Mais est-ce que c'est vraiment ça la raison qui fait qu'ils vont pas accéder? Ou est-ce que c'est une excuse de dire « Ah, j'ai pas réussi parce
c'est
que je suis une
excuse.
Femme? »
J'ai longtemps dit, Max, que j'ai pas pu faire la Ligue nationale de hockey parce que j'étais trop petit.
Ben moi, c'est parce que je me suis blessé au genou.
Ben oui, c'est ça. Puis ouais. Jeff, c'était
ben,
quoi?
Ben moi, c'est ça. Un gardien de but de 5 et 9. Tu vois-tu ça dans la Ligue nationale de hockey? C'est ça, mon petit affaire. 6 et 3, présentement, je me prépare à affronter le Lightning.
Mais non, mais voyez, c'est une défaite.
Mais
vous faites référence à des critères physiques qui sont importants dans un emploi physique. Ah oui. Ça a de l'allure, ça. Ben, tu sais, moi, je pourrais dire, ah, c'est risqué de penser que je pourrais devenir première ministre. J'ai trop un franc-parler. Je déplais trop. Je parle pas pour plaire. Moi, je parle pour dire ce que je pense réellement. Ça, ça peut me nuire en politique. Je pense pas réussir à devenir première ministre.
Je pense
qu'il peut pas parce que je suis une femme. Mais ça n'a rien à voir.
Je pense qu'il peut rester certains défis. Je pense pas que l'égalité soit atteinte à 100%. Tu sais, mettons qu'on prend le domaine de la radio, tu sais, des femmes qui vont leader un show de radio, est-ce que ça peut être plus difficile à atteindre? Je pense que oui, je pense que ça peut être encore difficile à atteindre. Peut-être qu'un jour, on va en arriver à ce que ce soit vraiment l'égalité. On a fait un méchant bout de chemin, là. Je pense que généralement, on est pas mal rendu là. Mais il y a encore des difficultés, je pense que les femmes peuvent avoir un peu plus que les hommes.
Ben, Myriam Segal, Nathalie Normando, c'est des femmes de radio.
Il y en a.
Isabelle Maréchal, il y en a. Mais
c'est
vrai que
de radio
c'est
aussi.
Vrai qu'il y en a peut-être un peu moins, mais est-ce que c'est parce qu'elles sont des femmes ou parce que il y a d'autres raisons? Je veux dire, moi, si tu mets à la tête d'un show de radio, il faut que ça soit un show de radio politique, parce que je ne me mettrai pas à parler du Canadien, je ne me mettrai pas à parler de NFL longtemps.
Parle-nous des séries. Le Canadien contre le Lightning. Il faut surveiller.
6-6. Moi, ce que ça veut dire, mais 6-6.
6-6, c'est pas mal à rien. Ben, au baseball, si t'es 6-6, c'est une crise de game.
Jacinthe, je gage 20$ avec toi que ce ne sera pas 6-6. C'est correct. Paris tenu.
Ah oui.
Ça va ressembler à quoi les prochains jours pour Christine Fréchette? Elle va devoir bâtir son conseil des ministres. Est-ce qu'on chamboule tout le conseil des ministres ou on garde des ministres forts dans des endroits stratégiques pour pas perdre le fil?
Peu importe ce qu'elle va faire, elle va être critiquée. D'emblée, je vais dire ça tout de suite, parce qu'il y a différentes façons...
Parce que c'est une femme.
Non, pas parce que c'est une femme, mais c'est vrai qu'il y en a qui vont le dire. Non, mais il y a différentes façons de voir les choses. Moi, je préconiserais beaucoup la continuité, dans le sens où, bien sûr, tu veux lancer un message de renouveau à la population, là, mais dans les faits, si tu ne prends pas la population pour des épais, tu sais très bien que de s'approprier toute la connaissance d'un ministère, toute la connaissance fine des dossiers, ça prend quelques mois. Donc, nommer des nouvelles personnes à la tête des ministères, c'est carrément de dire aux Québécois, pour les prochains mois, il ne se passera pas grand-chose dans l'appareil public parce qu'on a des ministres à la tête d'apprentissage. Ils vont être dans des... Un ministre qui prend la tête d'un ministère, là, il se fait briefer le premier mois, les deux premiers mois, même les trois premiers mois dans certains ministères complexes,
c'est
comme
le
l'immigration.
C'est le
sous-ministre
qui est chargé de le briefer.
La haute fonction publique, les sous-ministres accompagnés, ces sous-ministres adjoints, sous-ministres associés viennent s'asseoir et là... OK, aujourd'hui, on va vous parler de tel dossier. Vous savez, le gouvernement est en cours, en procès contre telle organisation depuis tant d'années. On est rendu à telle étape et va falloir donner des directives à notre défense. Parce qu'il y a des procès en cours avec différents ministères. Bon, tel enjeu est très médiatisé. On va vous expliquer pourquoi c'est pas aussi simple que ça en a l'air de l'extérieur. Donc, toute cette période d'apprentissage-là va un peu paralyser les ministères. Alors moi, j'opterais pour l'approche de la continuité. Particulièrement, je veux nommer Simon Jolin Barrette, qui a été ministre de l'Immigration, puis ensuite ministre de la Justice. Ça, là, c'est le ministre que je vais surveiller le plus. Où est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il reste à la Justice? Parce que Simon Jolin Barrette a développé son expertise et ses compétences autour de l'immigration, les enjeux identitaires et la justice. D'aller le pitcher ailleurs, c'est carrément y faire un affront, de dire « toute ton expertise, je la renie ». Et c'est aussi de faire un affront aussi au ministère de la Justice parce qu'on s'habitue à travailler avec notre ministre aussi et on travaille sur des dossiers. Et là, si on interrompt puis on change le leader, ça change complètement la dynamique. Ça peut changer la priorité, la priorisation de certains projets. Alors, ça peut vraiment venir beaucoup déstabiliser la fonction publique. J'irai dans la continuité. J'ai hâte de voir ce qui advient de Simon-Jolin Barrette qui a endossé Bernard Drainville.
Ouais.
Alors, est-ce qu'il sera puni pour ça?
Tu crois-tu, toi, Jeff, qu'on va réussir à unir ces deux clans-là? Parce que,
ça
sérieusement,
va être
quand on a décidé que c'était Christine Fréchette qui passait, les deux parties dans la salle, il n'avait pas l'air d'être capable de se sentir.
Simon-Jolin Barrette est un bel exemple. Il a quitté très rapidement le congrès de la CAQ avec une phase de baboune. Puis, à quel point... Tu penses qu'ils vont être capables de travailler ensemble, Christine Fréchette et Simon Jolin Barrette, avec Christine Fréchette qui a dit « La Constitution, oubliez ça, je passe pas ça sous baillon. »
Ça dépend de la maturité de Christine Fréchette. C'est vraiment, pour moi, tout repose sur sa maturité émotionnelle, sa capacité à reconnaître l'expertise de Simon Jolin Barrette dans ce cas-ci, mais l'expertise de tout le monde autour d'elle. Est-ce que tu veux jouer au petit boss puis montrer que c'est toi qui mènes? Ou... tu reconnais tes forces en place et tu leur donnes l'élan qu'ils ont besoin pour achever ce qu'ils ont commencé. Simon-Jolin Barrette a travaillé fort sur son projet de constitution. C'est sûr que ce projet-là est très controversé, mais de lui enlever ça des mains ou de lui enlever les autres dossiers sur lesquels il travaillait, c'est un travail... Je parle beaucoup de lui parce que j'ai travaillé auprès de lui. Puis mm-hmm. je vous le dis, là, c'est un travailleur extrêmement acharné. Là. Des journées de 12, 14, 16 heures sans arrêt. Il lit ses dossiers, chaque virgule, chaque page. Tu ne présentes pas un dossier, puis tu as l'impression qu'il va, il va la lire, le lire en diagonale.
On le décrivait comme un robot. Là.
En fait, c'est une machine de travail. Il n'est pas du tout robot. Il a un sens de l'humour, puis il a des émotions en masse. Mais c'est une machine de travail. Il mange la job à longueur de journée, de soirée, de fin de semaine. Donc, un joueur comme ça, n'importe quel leader le veut dans son équipe,
ben oui.
le veut de son côté et le veut sur des dossiers prioritaires, des dossiers stratégiques, des dossiers importants. Mais là, on s'en va vers quelle sorte de leader on a. Vous savez, il y a des leaders qui aiment ça s'entourer de « yes man » qu'on dit, mm-hmm. des gens qui te disent tout le temps « oui, t'es bon, t'es belle, t'es fine ». Puis il y a des leaders qui se disent « j'ai un petit conflit de personnalité avec lui, ça accroche des fois, on est deux tempéraments forts, mais c'est pas grave, il est bon dans ce qu'il fait, je prends le risque ». Qu'on ait des petits accros. Je prends le risque qu'ils ne m'écoutent pas toujours ou qu'ils ne suivent pas toujours ma direction, mais quand même, je sais qu'il est bon dans ce qu'il fait, donc je le place quand même dans un rôle influent.
Bernard Drainville, va arriver quoi avec lui? Parce que.
Éric Girard ne voudra pas perdre les finances.
Non, Éric Girard ne veut pas perdre les finances, non. Mais là, lors de l'annonce de la grande semaine de l'Hôtel Dieu de Lévis, il s'est retrouvé là en tant que député de Lévis, puis il a dit: moi, j'ai toujours rêvé au portefeuille économique.
Oui.
Il a lancé un petit caillou dans le soulier à Christine Fréchette. Là. Ben, moi, je le vois pas à l'économie, Bernard Drainville. Je sais pas les. Ben, en tout cas, quand je regarde son CV, il n'y a pas les compétences.
Oui. Ben, portefeuille économique, les gens pensent tout le temps que c'est finance puis économie, mais ça peut être le Conseil du Trésor, qui est la gestion.
Ah, c'est vrai,
ça peut être
pas
le Conseil du Trésor, qui est la gestion des fonds publics. Donc,
là où
c'est carrément. Oui. Donc, c'est carrément la gestion de l'argent des ministères. Donc, ça peut être un portefeuille économique aussi.
Oui, c'est quand même assez prestigieux, Conseil du Trésor aussi.
Oui, puis dans une certaine mesure, moi, je pense que l'éducation et la santé, ce sont des portefeuilles de nature économique dans la mesure où ils sont d'importance pour le budget du Québec.
On passe au sondage qui a eu lieu cette semaine. C'est un sondage Palace. Paul Saint-Pierre-Plamondon, qui le 2 décembre dernier était à 39% avec le Parti québécois dans les intentions de vote, là, sont en train de descendre, si on en croit le sondage Palace Data, à 29%. Ça va être quoi la stratégie du PQ pour remonter dans les intentions de vote? Parce qu'il y avait le beau jeu, là. Il n'y avait plus personne devant lui sur l'autoroute. Puis là, tout d'un coup, pouf, un Charles Méliard qui est souriant, qui ne dit pas grand-chose, qui est en première place. Ça doit être assez particulier dans le clan péquiste. Là.
Il pourrait tenter de faire des sorties plus fortes sur le plan économique parce que c'est un enjeu peut-être moins fort du Parti québécois. Il est très fort sur le plan identitaire, de la langue, de la culture. Sur le plan économique, on attend toujours des propositions plus fortes pour... Mettons, quand je parle de propositions plus fortes là, en économie, je vais spécifier, là, c'est comment s'assurer que le Québec deviendra prospère sur un plan croissant et durable. Donc, on ne veut pas créer un boom dans l'économie en lançant un projet de tramway. Puis, wow, à Québec, ça bouge, hein, l'économie, ça bouge. Ben oui, on a un projet d'infrastructure publique qu'on a garoché dans pattes du privé. Puis là, on donne l'impression qu'il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup d'activités économiques, mais c'est une fausse activité économique. Elle est créée par l'injection de fonds publics dans le secteur privé. Donc, est-ce que le Parti québécois ira au-delà de ça pour dire on va s'assurer de créer un environnement propice à l'entrepreneuriat, propice aux investissements privés pour qu'on génère la richesse sur le plan durable et croissant parce qu'éventuellement, ça peut aider à la souveraineté, par exemple, dans leur projet de souveraineté.
Donc, en parler un peu plus.
Parler plus d'économie. Okay. Mais l'autre chose, maintenir le cap, ça peut être une stratégie aussi. Maintenir le cap sur ce qu'ils ont l'intention de faire parce que Parti libéral du Québec, là, on dit que ça va bien dans les sondages, mais attention, ça commence à grenouiller un peu, là, parce que Charles Milliard, on apprend là, cette semaine, sais-tu ce matin, dans The Gazette, donc dans les médias anglophones, ça n'a pas sorti encore dans les médias francophones à ma connaissance ce matin, mais qui a organisé une réunion d'urgence avec ses députés, parce que ça crée beaucoup de mécontentement, sa sortie sur le renouvellement de la clause nonobstant sur la loi 96. Donc, la loi 96, le Parti libéral, historiquement, s'est quand même opposé à la loi 96. Et là, lui, s'est positionné en disant non, non, si on a à renouveler, parce qu'on sait, hein, la clause nonobstant, la clause dérogatoire, doit être renouvelée à tous les 5 ans. Mm-hmm. Donc, en ce moment, on bénéficie de cette protection de clause dérogatoire. Mais à...
Ce qui fait en sorte que le Québec peut se substituer aux lois fédérales.
Oui, à la Charte des droits et libertés canadiennes. Donc, il s'est fait poser la question, est-ce que vous allez renouveler la clause dérogatoire quand vous aurez à le faire, si vous êtes premier ministre? Il a dit, oui, je le renouvellerai. Donc ça, c'est un signal fort pour dire aux Québécois qui aiment cette loi-là, vous pouvez voter libéraux.
Qui est la loi sur la langue officielle et commune du Québec, qui est le français. Et on le sait, les libéraux gagnent tous les comtés anglophones.
Oui.
D'ailleurs, hier, en conférence de presse à l'Assemblée nationale, il y avait une députée en arrière de lui, anglophone, qui a dit, oh oui, j'appuie mon chef, mais c'était du bout des lèvres. Là.
Oui, quand tu dis que ça grenouille de quelle façon?
Il a convoqué une réunion d'urgence parce qu'il y a des députés dans des circonscriptions anglophones qui reçoivent des tonnes d'appels de leurs citoyens qui disent que c'est ça, moi j'ai voté libéral toute ma vie, j'ai toujours voté libéral, mais là vous endossez finalement la loi 96, la loi sur la protection de la langue française. Donc, pour ouvrir ses portes vers l'électorat francophone, Charles Milliard s'est positionné en faveur de cette loi-là en disant « oui, oui, je renouvellerai la clause dérogatoire », mais il est en train de créer beaucoup de mécontentement chez les anglophones.
Mm-hmm. Puis ce qu'on dit dans The Gazette, je vais aller lire, puis en effet, t'sais, on le mentionne en toute fin d'article, ce petit détail-là qui est quand même assez important comme tu le rapportes, c'est que c'était une position qui n'avait pas été approuvée du tout par son caucus. T'sais, Milliard est arrivé hier avec ça, a lancé ça. Puis là, après ça, il n'a pas eu le choix de caler sa rencontre d'urgence parce que là, il y a des députés, comme tu dis, qui sont sortis en disant « t'as peur, là ».
Mais il fait ce qu'il dit, parce que quand je l'ai reçu dans Marceau Soir, il m'a dit « le jour où on va me donner les clés, c'est moi qui vais runner la business ».
Ben, il run, mais ça fait pas juste des gens contents, visiblement.
Et c'était la députée Jennifer McCroney de Westmount, justement, qui était avec elle. Là. Je cherchais son nom. Donc, c'est sûr qu'elle s'est présentée au micro et elle a dit « ben, je vais dire comme mon chef, mais tu sentais que c'était pas avec enthousiasme. »
Ben oui, parce qu'eux, ils font face aux citoyens là, qui vont à leur bureau de comté et qui disent « what the hell, qu'est-ce qui se passe? »
Mais pour en revenir à la stratégie adoptée par Paul Saint-Pierre Plamondon pour remonter dans les sondages, se rapprocher du besoin des gens actuellement, ce serait pas une mauvaise chose. Tu sais, moi, là, qui me parle d'Honoré Mercier, je sais qui est Honoré Mercier, je connais l'histoire d'Honoré Mercier, mais concrètement, au day-to-day, j'en ai rien à foutre d'Honoré Mercier. C'est pas à moi qu'il parle.
Ouais.
À qui il parle?
Ouais.
À qui il veut parler, lui?
C'est pour ça que je dis qu'il faut parler d'économie, parce qu'au bout du compte, si on veut, par exemple, construire des plus belles écoles partout au Québec, il y a des secteurs du Québec qui ont des belles écoles flambant neuves, puis il y a des écoles que... Il y a des jeunes Québécois aujourd'hui qui rentrent dans des écoles qui n'ont pas changé depuis que moi, j'étais à l'école primaire, là, et même avant. Donc, si on veut promettre, par exemple, d'avoir des belles écoles pour tout le monde, d'avoir des beaux programmes plus sportifs, avec plus d'accès à des programmes particuliers de sport, d'art et tout ça, ben, faut avoir les moyens de ça. Donc, s'il parle comment je vais construire un Québec plus riche, plus prospère, ben là, peut-être qu'il va plus parler à des gens comme toi puis moi qui s'intéressent à ça, comment on peut s'assurer qu'on ne commence pas à proposer du gravier sur nos routes. On propose du gravier sur nos routes, on est rendu là. Donc, il faudra peut-être aussi qu'il réfléchisse à sa stratégie environnementale, parce que le Parti québécois veut pas exploiter nos ressources naturelles, a embarqué dans cette folie verte. Et cette folie verte, ben, mène pas nécessairement à la prospérité. Si on s'informe là, vraiment bien, là, même les panneaux solaires, même les histoires d'éoliennes, là, François Legault a pris le virage d'éoliennes, là, informez-vous correctement. Les éoliennes, c'est une filière qui fonctionne financièrement tant qu'elle est lourdement subventionnée. La minute qu'on retire les subventions à cette filière-là, elle tombe. Il n'y a rien de rentable. C'est mort. Parce que l'éolienne coûte extrêmement cher en entretien, a une durée de vie limitée et en plus produit à 30 % du temps de l'énergie. Il y a 60 % du temps où l'éolienne ne vire pas.
OK. Si tu étais Éric Duhaime, tu laisses tomber l'Ouest puis tu te concentres sur l'Est là, avec les sondages qu'ils ont eu, là, 34 % dans la grande région de Québec. Fait que, tu sais, Drummondville en descendant jusqu'en Gaspésie, puis on oublie Montréal. Là.
Ça peut être une stratégie, au moins mettre ses candidats les plus forts dans ces secteurs-là, mais c'est un piège aussi, parce que si tu penses, et là, je vous le dis, là, quand tu es en politique, tu peux penser pour ton mandat ou ta durée de ta carrière à toi, où tu peux penser pour ton parti puis la prospérité des 50-100 prochaines années. Là. Si tu ne veux pas te camper dans un rôle de parti régionaliste, d'un parti régional, tu ne peux pas non plus faire ce virage-là. OK, on va se concentrer plus sur l'Est du Québec sans avoir la conséquence qu'aux prochaines élections, dans 4 ans puis dans 8 ans, il y a peut-être des gens, des journalistes, des chroniqueurs pour te ressortir la carte de « Ouais, mais Parti conservateur, c'est un parti de la région de Québec, ça sortira jamais de la région de Québec. » Et là, ils vont relever tout ce que tu as fait pour effectivement t'inscrire là-dedans et ça peut jouer contre ton parti à long terme. Bon, est-ce qu'on a un Éric Duhaime qui pense pour le long terme? D'après moi, oui, mais c'est une stratégie qui peut devenir un piège de se concentrer juste dans l'Est. Mais je comprends ce que tu veux dire, Yannick. Effectivement, c'est là où il y a des gains à faire. Mais c'est dangereux aussi de trop s'inscrire dans une mouvance régionaliste ou régionale.
On termine avec ça. L'UPAC qui craint le copinage entre le gouvernement et l'entreprise privée CGI et le ministre qui dit « ben là, il va falloir... manigancer certains trucs, contourner certaines règles, mais ça devrait passer, ça devrait bien aller. » Mais il semble que c'est prendre un peu à la légère la vie de l'UPAC. Si t'en as pas besoin de l'UPAC, pourquoi tu mets pas ça à terre, tu sais?
Ouais. Ça, c'est un beau dossier pour tous les partis qui se demandent de quoi on va parler pendant la prochaine campagne électorale.
T'sais, Gilles Bélanger, il était où quand il a dit ça? Ouais. Ouais, il va falloir faire entourlouper certains petits trucs puis changer certaines lois. Là. On va faire du fling-flang. Puis ça devrait bien passer. Faut-tu être absent?
Oui. Bien, premièrement, je vous invite à reconnaître que c'est un article à Radio-Canada qui sort, piloté par Thomas Gerbet. Donc, déjà, quand on entend Thomas Gerbet, il faut ouvrir grand nos oreilles parce que c'est un journaliste rigoureux, sérieux. Quand il sort un dossier, c'est pas de la petite poutine. Alors, Thomas Gerbet, qui nous apprend là, que l'unité permanente anticorruption a remis un avis exceptionnel au gouvernement du Québec, dans lequel elle le met en garde contre un risque risqué. Un risque lié au projet d'alliance informatique entre CGI, comme tu dis, Yannick. Un avis exceptionnel au gouvernement du Québec donné par l'UPAC. L'UPAC, on se demande parfois qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là depuis la création, l'unité permanente anticorruption. On n'a pas l'impression
qu'ils ont du mordant.
On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de dossiers résous en matière de corruption au Québec. Et là, ben, ils font cette mise en garde, donc il faut la prendre au sérieux. Puis effectivement, le fait que ce soit porté par le journaliste Thomas Gerbet, moi, j'y accorderais beaucoup d'importance. L'UPAC, ça serait un mousseux de bon dossier pour les partis en ce moment, de s'intéresser à quel vent, quel souffle nouveau vont donner sur l'UPAC pour qu'il fasse sa job comme du monde, parce que je sais que je sors un peu du sujet, là, mais suivez-moi, là. J'ai parlé des routes de gravel. Quand on est rendu à proposer à nos Québécois en 2026, là, ouais, il faudrait peut-être mettre une couple de routes en gravel pour mieux s'occuper des autres. L'UPAC est où pour dire non, il faudrait peut-être s'occuper de gérer davantage les projets d'appel d'offres dans les infrastructures
publiques?
C'est
exactement notre point de cette semaine, c'est qu'ils travaillent à l'envers. Plutôt que de dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'en a pas pour notre argent, ils se disent comment faire pour aller chercher encore plus d'argent, puis tiens, on va mettre des routes en gravel.
On va mettre du péage.
Ben oui, on regarde pas s'il y a de la concurrence suffisante, on regarde pas s'il y a suffisamment d'entreprises qui obtiennent les appels d'offres, qui postulent sur ces appels d'offres-là. La collusion en construction, il me semble que c'est quelque chose dans lequel on a déjà trempé au Québec. Qu'on a vraiment résolu tout ça?
Ben c'est ça. Hey. On regarde pas les matériaux utilisés non plus. Il y a pas d'inspection qui se fait c'est de la mauvaise asphalte, etc.
Jacinthe Tavares, toujours un plaisir, on se reparle la semaine prochaine, vendredi?
Yes.
Oui, à vendredi.
Merci d'avoir été là. Bye-bye.
C'est assez mollo sur les routes ce matin. Il y a pas grand monde, j'ai l'impression, sur le réseau.
Gravel dans le retour. Mais tu sais,